Ça va?
Liberté, fraternité.
La pluie?
Salut!
Yo! Pourquoi pas?
Hola, hola, hola.
J'ai froid.
Hola, buenos días!
Merde!
Wie geht es dir?
Café.
Non.
Hey!
Un petit bon bout
de temps. Donnez la voix.
Donnez la voix.
Eh bien le bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et comme à chaque fois, hein, je me surprends moi-même d'avoir toujours ce même plaisir de vous recevoir à l'occasion de ce nouvel épisode de Donner la Voix. Nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Et donc président de l'association Pourquoi pas 33.
Tout à fait.
Et donc la raison de ta venue hein, parmi nous, donc déjà je t'en remercie, c'est de nous parler de toi, de l'association, de ce que vous proposez en fait. Mais bon ça voilà, quoi, j'espère que ça se passera dans le cadre d'un entretien et qui permettra à nos auditeurs et auditrices de vous découvrir ou de, pour ceux qui vous connaissent déjà, d'en savoir peut-être même voir un peu plus.
Voilà, merci beaucoup de me recevoir déjà et de nous recevoir, hein, puisque si je parle, c'est aussi en tant que président de l'association Pourquoi pas. Alors, tu me posais la question de savoir tout à l'heure que depuis combien de temps elle existe. Elle a fêté ses 20 ans l'année dernière. Donc, c'est une jeune vieille association et qui a été créée à Paris au début du 21e siècle.
C'est 2001 de ce que j'ai trouvé.
Ouais, c'est ça. 2001, c'était donc le début du 21e siècle, voilà. Et qui est une expansion, en fin de compte, de mon travail normal, hein, puisque je travaille dans un gros comité d'entreprise à Paris, dans une banque. Ça t'a fait sourire, d'ailleurs. Et donc, j'avais des gens qui me... On dit des followers, maintenant, hein, qui me suivaient dans le travail que je faisais dans cet établissement et qui m'ont demandé de pouvoir participer aussi à des activités que j'animais et que j'organisais. Beaucoup de cinéma, hein. On travaillait beaucoup avec des cinémas comme le Max Linder, le studio...
Très beau cinéma d'ailleurs.
Voilà, l'Espace Saint-Michel, beaucoup de cinéma dit indépendant à l'époque.
Et sachant qu'à Paris, il y en a encore
Il y en a encore quelques-uns, et donc il y avait tout un réseau de cinéma indépendant. Un grand salut à la famille Zilberman qui animait ce réseau. Et puis, pour des raisons diverses, nous sommes venus nous établir sur Bordeaux, et on a mis un peu en sommeil cette association. Et au moment de la retraite, c'était le moment de réactiver les choses, puisque... J'avais rencontré des gens extraordinaires qui animaient les rencontres, la classe ouvrière, c'est pas du cinéma, dans un cinéma magnifique qui est l'Utopia et qui est un point important du point de vue cinématographique, culturel et tout, de la ville de Bordeaux.
Ah, j'ai presque envie de dire que c'est un des poumons en fait.
Hein. Exactement.
Elle en a plein à sa disposition, mais bon, déjà ne serait-ce que par son emplacement hein, dans le centre comme ça, place Camille Julien. Puis bon, l'endroit est magnifique et puis bon, puis il y a aussi toute l'équipe hein, qui est tout à fait disposée. En fait, à mettre en place des partenariats. Bon, l'Utopia, en même temps, c'est un réseau hein, de cinéma qu'on trouve partout sur l'Hexagone et qui n'ont jamais fait preuve d'une. Alors, je ne veux pas dire condescendance, mais de se dire oui, bon, on a les moyens de choisir. Alors, bien sûr, ils choisissent, mais bon, c'est des choix en fait qui font pas mal le focus sur des associations qui sont parfois locales en fait, hein, qui sont bordelaises. Donc, pour ça, moi, je les salue aussi, parce que bon, c'est la personne qui en profite qui le dit. Mais parce que bon, en off, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu histoire de. Ton investissement auprès de l'association, c'est dans la droite continuité de ce que tu faisais donc dans ce comité d'entreprise.
Voilà, et puis bon, on est dans la tradition de ce qu'on appelle l'éducation populaire, donc c'est un vaste mot, on peut y mettre beaucoup de choses, hein, mais je te le disais tout à l'heure, j'étais formé dans un gros syndicat qui s'appelait la CGT, avec une vision quand même d'éducation populaire. Les luttes servent à quelque chose, il faut les entretenir, il faut expliquer, toujours expliquer. Et donc c'est aussi cet intérêt sur la mémoire. Et pour l'anecdote, en fait, je me suis fait un peu connaître, l'association s'est fait un petit peu connaître à Bordeaux en s'occupant de la mémoire du clown chocolat. Alors on n'est pas les seuls à travailler, nous c'est modeste, hein. Je pense à mon ami Carfa Diallo qui fait un gros travail avec
donc
mémoire et partage.
Mémoire et partage, hein.
Et d'ailleurs demain, le samedi c'était le 11 novembre et il y avait une commémoration qui était faite à ce sujet-là des bords de 14-18 venant des colonies comme on disait à l'époque. Et donc, moi, je me suis saisi de ce personnage qui m'a beaucoup touché, le clown chocolat. Il est mort à Bordeaux en 1917. Il était oublié. Alors, pas par les gens du cirque, hein, puisque les gens du métier connaissaient bien le clown chocolat. Mais enfin, cet artiste était le premier artiste noir. Et surtout, un homme admirable qui, né esclave, s'est émancipé contraint et forcé. Et puis, est devenu le premier artiste noir en France. Il a eu beaucoup de succès.
Bah, être connu, en fait, parce que bon, des artistes exactement. Noirs, il y en a eu bien d'autres, mais disons avoir la possibilité de se produire déjà.
Alors oui, et puis mais quand je prends le mot d'artiste, c'est une reconnaissance en tant que telle.
Oui, c'est ça que je veux dire. C'est ce que j'entendais en fait, parce qu'après des créateurs ou des personnes animées, bon bah voilà.
Et donc, il est mort en 1917. Alors, c'est sûr qu'il y en avait plein d'autres qui mouraient à cette époque-là. Je parlais du 11 novembre. Hein, c'était une période un peu compliquée. Et il était oublié. Il était enterré au cimetière protestant de Bordeaux. Et tout ça, ça m'a permis de tirer les ficelles, en fin de compte, et de pouvoir m'intéresser à ma nouvelle ville, hein, qui était celle de Bordeaux, parce que c'est une ville très riche. Hein, Et donc, par cet aspect-là, on est arrivé quelques années après à créer un petit guide avec quelques camarades et aides. C'est le guide du Bordeaux colonial, hein, qui est fait un livre de référence, hein, puisqu'il a essaimé, il a fait d'autres petits à Marseille, dans différentes villes, à Paris, bien sûr, et dans différentes villes. Et en fait, il donne l'explication du nom des rues, qui n'est jamais neutre. Et c'est comme ça qu'on a créé l'année dernière ce collectif pour renommer l'avenue Thiers, puisque l'histoire, comme je disais tout à l'heure, nous intéresse beaucoup. Donc on n'est pas focalisé sur tel ou tel thème, mais sur tous les thèmes de l'histoire populaire. C'est ça qui nous intéresse. Et comme l'année dernière, c'était le 150e anniversaire de la commune. On a monté donc un premier colloque qui s'appelait « Les révoltes populaires en Aquitaine de la fin du Moyen-Âge à nos jours », parce que Bordeaux a été la capitale de la France plusieurs fois, dont en 70, ici même, et c'est Thiers qui a été nommé président du Conseil pour faire la paix avec les Prussiens. Mais pour faire la paix avec les Prussiens, pas pour devenir à son tour le président, en fin de compte, qu'il a été et qui a permis le massacre de plusieurs milliers de Parisiens, de la déportation, etc. Et ça nous semblait tout à fait choquant d'avoir l'avenue principale de Bordeaux qui s'appelle de ce nom, Thiers, et même des écoles, hein, qui est quand même...
Mais il est encore question.
Oui, tout à fait.
Moi, ce qui me dérange, après, je ne sais pas si on sera forcément d'accord sur ce point-là, c'est que remettre en question ce qui a été fait, je ne sais pas, après, je pense qu'une plaque explicative, en fait, et qui remet dans le contexte, d'une certaine mesure, ça, je peux l'entendre, mais continuer, en fait, à perpétrer, en fait, cette même... là, j'ai envie de dire, à un moment... Enfin, après, là, encore une fois, je ne sais pas si... c'est une grande question, hein, qu'on se pose en France et partout en Europe. Hein. En Angleterre, il y a eu pas mal de manifestations qui ont été, pour certaines d'entre elles, assez brusques, hein, où ils n'ont pas posé, ils sont pas posé la question de l'autorisation de qui que ce soit. Ça a été de démonter des statues, des choses comme ça. Après, je suis très partagé. C'est un sujet qui est intéressant.
Nous, on n'a pas tranché sur ce sujet-là.
Hein. Bah non, c'est difficile.
Mais ce qu'on se dit, tu parlais de plaques, les plaques explicatives, par exemple, quand on va voir celle qui est située avenue Thiers et qu'on lit ce qui a marqué dessus, eh bien, il y a bien un sens qui est donné et ce n'est pas celui de la vérité historique. Hein. Donc là, il y a tout un débat. Ensuite, moi, je peux comprendre que l'on ne veuille pas changer les habitudes, mais quand on l'a appelé Thiers, on a changé les habitudes. Hein.
Oui.
Bon, voilà. Comme par hasard, celle qui mène à ce nom, elle s'appelle du nom de Jean Jaurès, hein, si je me trompe bien. Donc là aussi, il y a une volonté, hein, d'écriture de l'histoire qui n'est pas neutre parce que notre ville est quand même, comme toutes les villes d'ailleurs, un lieu où des populations d'origine diverses, variées, passées par le nom, je pense à Paul Bert, nous sommes ici au centre Paul Bert. Paul Bert n'est pas forcément donc il y a quelqu'un qui... Bon. Alors, on ne peut pas mettre forcément des plaques à toutes les rues, mais on peut acheter le guide du Bordeaux colonial qui en vend dans les bonnes librairies bordelaises pour savoir la vérité, parce que la vérité historique est toujours intéressante à voir. Et moi, je comprends, si tu veux, ton interrogation, voire ta réticence à changer systématiquement, parce que les modes, ça fluctue. Bon, même
oui,
si,
voilà, en fait, c'est pas le changement en tant que tel. En fait, c'est la réticence à vouloir toujours.
Mais on n'a pas tranché, nous.
Hein, à confondre les temporalités, en fait. Ouais. À un moment, on peut pas sans cesse, en fait, dérelativiser.
Non, on est d'accord. Mais tu vois, il y a une clinique qui vient de s'ouvrir, avenue Thiers. Elle n'a pas de nom. Elle s'appelle avenue Thiers. La clinique Thiers. Il y a une école qui n'a pas de nom, elle s'appelle Thiers aussi. Et pourquoi donner le nom de Thiers quand on connaît sa vie privée? Je ne veux pas en parler à la radio aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé, regardez sur le guide. On s'aperçoit quand même que c'est un bonhomme qu'on pourrait taxer aujourd'hui de pédophile.
Hein. Bien sûr, mais voilà. Et puis même sans avoir forcément ne serait-ce que se pencher sur sa vie intime, sa vie de personnalité publique suffit largement à elle seule, en fait, pour ne pas avoir envie. Mais ce que je disais, c'est... mais bon, après, là encore, c'est un vaste débat et c'est pas forcément le propos aujourd'hui, c'était juste pour préciser que c'était...
Tout à fait. Non, on n'est pas là pour déranger les gens, on est là pour retrouver en fin de compte un sens à certaines choses. Mais c'est tout.
Après, moi, quand je me suis penché, en fait, sur l'association quels étaient vos souhaits, je me suis surtout dit, en lisant, en fait, en plongeant dedans, que vous vouliez, enfin, que vous aviez surtout envie de rendre la réflexion collégiale et ensemble, en fait. C'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai lu, sans forcément avoir une discipline à proprement parler. C'est juste dire, peut-être aiguiller dans certaines mesures des pistes de réflexion, avoir à disposition des espaces qui permettent de le faire.
Tout à fait. Non, mais il n'y a pas d'autre ambition que celle-ci, et puis de se réfléchir ensemble, et puis de se rencontrer. Et puis c'est pour ça que le clown chocolat est un parfait exemple, parce que c'est un bonhomme extraordinaire. Je vous invite à aller sur notre site internet, là. Assaut-pourquoi-pas.org et de lire sa vie, parce que c'est un homme qui était remarquable, lui. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est qui sont ces personnages, quel est l'homme, en fait. Il n'y a pas que du négatif dans l'histoire, il y a des gens formidables. Et c'est de les faire découvrir. Je pense notamment à Flora Tristan, qui était une bordelaise aussi, est une femme qui est une aventurière au sens de l'aventure, puisqu'elle a fait quasiment le tour du monde. À l'époque, les femmes voyageant seules, c'était exceptionnel, et elle relate ça dans ses ouvrages. Et surtout, c'était une pionnière du féminisme, et puis c'était aussi une militante ouvrière. Et d'ailleurs, le 14 novembre, c'est-à-dire lundi, nous avons célébré en fin de compte l'anniversaire de sa mort. Elle est morte un 14 novembre 1843. Et donc, tous les ans, depuis presque tout le temps, il y a un hommage qui est rendu sur sa tombe qui est située au cimetière de la Chartreuse. Et nous avons créé en fait des déambulations autour de sa vie à Bordeaux. Nous avons créé une pièce, un spectacle aussi qui s'appelle Les Séparés, qui va être rejoué du 6 au 13 mars, peut-être.
C'est à l'Inox ?
Ça sera à l'Inox, Donc si éventuellement, si on peut revenir vous en parler, ça sera avec grand plaisir, avec les artistes.
Avec plaisir. Mais surtout, là, j'en profite aussi de mettre en avant les partenariats que vous avez, parce que quand tu dis « on », encore une fois, je reviens sur l'idée de faire les choses de façon collégiale, donc ensemble, donc c'est en partenariat avec des troupes de théâtre, avec des salles, avec... Voilà. Je te laisse le soin de te présenter d'ailleurs, parce qu'on peut leur...
En fait, on est une association, c'est pas le nombre qui nous importe, c'est les projets que l'on tient. Donc, on va travailler bien sûr avec la ville de Bordeaux, puisqu'on est sur Bordeaux, donc ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le colloque sur les gilets jaunes qui s'appelle de la valse des ronds-points au cahier de la colère, et bien c'est fait en partenariat avec la ville de Bordeaux dans le cadre de la quinzaine de l'égalité, qui est un événement important qui perdure en plus, et puis le département, puisque les archives départementales, c'était aujourd'hui, ont fait tout un travail sur les cahiers de doléances, et sont une équipe, on a la chance d'avoir une équipe dirigée,
vous y avez eu accès,
qui a eu accès et qui travaille énormément là. Il y a encore moins 3 ans de travail, disait Magali Della Souda, qui se charge de cette recherche. Et donc, un soutien très important du département. Donc, on n'est pas forcément dans la négativité.
La métropole aussi, dans la quinzaine, qui est concernée.
Exactement. Et donc, on n'est pas du tout dans la négativité, mais on est au contraire de rechercher des partenariats de gens qui savent. On n'est pas dans l'affirmation de quoi que ce soit, mais on cherche ensemble.
Oui, puis la question, est-ce que c'est de savoir ou de se poser la question? Ça, après, on peut épiloguer dessus, mais déjà dans un premier temps de se poser la question, c'est déjà une première étape intéressante, et surtout qu'à Bordeaux, je dirais qu'il y a pas mal de travail à faire, parce que c'est une ville qui a une posture assez particulière avec son histoire. Je rebondis sur quelque chose que tu disais, Bordeaux est une ville qui a quand même une particularité qu'elle va partager avec Nantes et Le Havre dans son histoire assez récente, qui remonte à 2 siècles, Et bon, bah, si on fait la comparaison avec Nantes, elle n'en est pas du tout au même stade, en fait, du rapport qu'elle peut avoir avec son histoire et les fondations même, en fait, de cette ville, de son architecture, de sa richesse. Voilà, quoi, ça laisse... mais sachant qu'on a quand même à disposition les archives, tout ça, qui sont tout à fait ouvertes, hein, qui sont accessibles au grand public, d'ailleurs, je tiens à le rappeler. Parce que nous avons reçu, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Et moi, je m'avais beaucoup surpris. Je pensais qu'il fallait avoir, comment dire... un justificatif ou légitimé, en
ah
fait.
Non, justement. Et non. Ça fait donc, partie aussi
donc
de...
Donc j'en profite, en fait, c'est ouvert au grand public, en voilà. fait. Vous y avez accès, c'est à
exactement.
Nous.
Exactement. Et justement, ce que tu as tout à fait raison de dire ça, parce que la directrice des archives, Agnès Vatican, a merci. Beaucoup insisté sur ce sujet-là, c'est qu'un pays démocratique est un pays qui conserve sa mémoire et qui la met à disposition des citoyens et des citoyennes. Alors bien sûr, il y a des normes à respecter, c'est quand même des documents, donc il y a beaucoup de microfilmage, oui, voilà, bon. Et puis il y a, je fais de la généalogie par ailleurs, hein, si ça intéresse les auditeurs et les auditrices, et donc vous savez bien qu'il faut, il faut faire des demandes, c'est un peu lourd, c'est pour ça que c'est une équipe spécialisée, en tant qu'universitaire, non pas pour éliminer l'intérêt des Gilets jaunes, puisqu'il y en a qui ont participé à ces recherches-là, mais qui a plus facilité d'accès, hein, puisque ce sont des gens du métier, et donc c'est...
Oui, qui ont une connaissance, en fait, des démarches à suivre.
Exactement. Mmh. Hein. Donc, ça va beaucoup plus vite. Et ce travail-là, je dis, il en a encore pour... Il y a encore 3 ans, puisque sur l'ensemble de la France, on estime entre 400 et 500 000, vous voyez, c'est un petit peu délicat, entre 400 et 500 000 documents consultables. Alors, parmi ceux-là, il y a des documents consultables sans problème, on va dire. C'est ceux qui n'ont pas forcément de référence, de nom, hein, parce que beaucoup de gens ont écrit à l'origine les cahiers de doléances. Ce sont les Gilets jaunes qui l'ont demandé. Donc ça, c'est intéressant. Ça intéresse un petit peu le côté historien pour moi. Ça fait vraiment référence à la Révolution française, un petit peu, hein, cette chose-là. La pérennité des choses dans le temps, c'est très intéressant à voir. Et puis, c'était aussi des maires qui ont demandé à ce que des cahiers de doléances soient
à disposition.
Voilà. Et le gouvernement de l'époque, qui est toujours le même d'ailleurs, qui a dit, bon bah tiens, c'est peut-être un moyen de court-circuiter les Gilets jaunes. Hein.
Et ils l'ont vu comme tel, en fait.
Voilà, on ne dévoile pas, puisque ça a eu lieu, mais ce qui apparaît déjà dans les premiers constats qui ont été faits, c'est qu'il y a un parallélisme entre les revendications des Gilets jaunes et les cahiers de doléances, au niveau de ce qu'attendent les gens, quoi. C'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire leur respect donc, par rapport à la violence qu'ont subi les Gilets jaunes, et puis sur les convergences, en fin de compte, que de s'apercevoir qu'on vit ensemble et qu'on a besoin d'avoir des points communs et des points d'appui forts entre nous pour pouvoir... Et d'ailleurs, ça sera le thème de demain,
au
musée d'Aquitaine. Et parmi les gens qui nous aident, bah, c'est quand même 2 institutions importantes, hein, c'est les archives départementales et le musée d'Aquitaine. Et ce qui nous semble intéressant, c'est que ce soit ces institutions-là qui accueillent les Gilets jaunes aujourd'hui. Alors, je vais dire un mot qui fera peut-être bondir ou qui semblera paternaliste, mais c'est aussi une forme de résilience, en fait, pour beaucoup de Gilets jaunes, parce que là, je récolte beaucoup de témoignages d'acteurs Gilets jaunes, hein, et tout. Et ce qu'il ressort, c'est que la plupart, c'est la souffrance, c'est la violence qu'ils ont subie. Bon, à différents, hein, il y a les éborgnés,
La violence, en fait, de rejet, tout simplement.
Et c'est cette violence-là, hein, c'est celle de celle-là dont je parle, c'est-à-dire le mépris, l'indifférence, les jugements, hein, voilà. Et donc, je pense que ça fait partie, en fin de compte, de l'appropriation d'une histoire, qui est leur histoire, mais qui est aussi l'histoire en général. Et si on réussit ce pari-là, je trouve que ce sera... on aura fait notre petite part, voilà.
Et j'en profite, parce qu'on aborde, en fait, donc, une partie du colloque qui se tiendra au Musée d'Aquitaine. On fait comment pour s'y rendre ? Souvent, il y a des gens qui nous écoutent et qui disent que demain, ils en profiteront volontiers, en fait, qui n'en aient peut-être pas forcément connaissance. Hein, donc, le moyen le plus simple, c'est
quoi ? Le moyen le plus simple, c'est de venir au musée. Et puis, c'est une place de 200. Il y a 200 places, mais je ne pense pas que les gens qui arrivent à 9h resteront jusqu'à 19h. Ça tourne. Ce soir, puisqu'on parle de l'organisation, vous pouvez venir à l'Utopia, on en a parlé en début d'entretien, cette salle importante au niveau de la vie sociale. sociétale en fait de Bordeaux, eh bien accueille la projection d'un film qui s'appelle Quartier Général et qui est tourné par Nathalie Loubert, qui est une documentaliste qui a déjà dans le passé fait des films sur des sujets intéressant, on va dire. Donc, elle nous en parlera sûrement ce soir même. Et c'est à 20h30. Et c'est donc un film qui parle du quartier général, c'est-à-dire le rond-point. Hein, le rond-point est quelque chose de très important dans l'imaginaire. Le rond-point, ça réunit plusieurs communes sur un lieu. Et c'est un espace frontière où se sont installés, comme par hasard, les Gilets jaunes. Et un petit peu en dehors des autorités, disons, traditionnelles. Et symboliquement, hein, je parle, et où il s'est passé beaucoup de choses, notamment la construction des cabanes, on verra ça, le feu qui réunit tout le monde, et puis surtout, chacun pouvait prendre sa place, et dans un esprit d'ouverture, hein, pas seulement symbolique, mais réel, humain. Hein.
Bah, en termes d'urbanisme, en fait, bah, c'est un point central d'où débouche plusieurs voies.
Exactement.
Donc, déjà,
exactement.
Rien qu'à cet égard, il
voilà.
Y a un côté pratique.
Voilà, enfin, donc elle a travaillé sur pendant une année entière avec ces gilets jaunes-là, discuter, prendre des reportages. Et d'ailleurs, ça sera très présent, c'était présent aujourd'hui, dans la fin de la première journée où on a fait beaucoup parler les acteurs du mouvement. Alors, des témoignages, hein, des street medics, des gens qui se déguisaient. Il y avait un côté carnavalesque, hein, qui existait aussi dans ces manifestations gilets jaunes.
Oui, qui relevait de la revendication. Et tiens, voilà, j'en suis, quoi. Enfin,
voilà,
j'en fais partie.
Voilà,
quoi.
ne serait-ce que le gilet jaune, c'est aussi une explication en soi. Enfin, bref, il y avait les crieurs de rue aussi, qui était un phénomène qui est réapparu. Hein, ça existait, les crieurs de rue. Mais donc, qu'est-ce qu'ils criaient? Ben, ils criaient la Constitution, ils criaient la loi, ils criaient, en fin de compte, c'était très intéressant. Et donc, demain, on continuera à donner la parole à ceux qui étaient sur les ronds-points, mais aussi, bien sûr, des universitaires qui ont fait un travail scientifique, hein, sur la base de leurs recherches, pour voir comment on a traité, la presse a pu traiter, en fin de compte, le mouvement.
Ça a été très condescendant. Hein.
Ouais, ou voire très, comment dirais-je, injurieux, hein, parce que bon,
oui,
c'était très très loin, hein, bon, et puis on aura...
C'est le traitement des forces de l'ordre, moi, qui...
Alors justement, c'est bien que tu
m'en... Qui a été vraiment d'une brutalité
voilà.
Extrême, quoi, mais qui...
Et on va débattre aussi avec un sous-préfet, hein, qui est en indisponibilité volontaire, qui a participé en 2007-2008 à la stratégie mise en place aujourd'hui, hein, par le pouvoir, pour maîtriser les manifestations, les encadrer, faire les fameuses NAS qui sont génératrices d'incidents automatiquement.
Hein. Qui sont des techniques paramilitaires.
Et qui sont des techniques paramilitaires avec d'ailleurs des armes militaires, hein, qui ont été dénoncées par Amnesty International, par les différentes ONG qui travaillent. Et puis on parlera aussi bien sûr des suites judiciaires qui sont énormes. Hein. Même encore maintenant, j'ai discuté avec un des avocats Gilets jaunes hier soir, même encore maintenant, il y a des suites judiciaires qui sont mises en place.
C'est des instructions qui vont s'étaler sur un certain nombre
d'années. Exactement. Et puis les amendes aussi, hein, parce que ça a plu comme c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a mis des amendes à des gens qui étaient susceptibles d'aller en manifestation. Voilà. Et donc, quand vous avez 130 euros d'amende et que vous touchez le SMIC ou mieux, eh ben, vous n'y allez plus, quoi. Donc ça a été une façon aussi de réprimer les gens. Alors voilà, on aura cet aspect-là, mais aussi l'aspect sur la démocratie, c'est-à-dire qu'on va rendre compte, ben, qu'est-ce que c'était que le RIC, en fait, qu'est-ce que c'est que cette volonté citoyenne de contrôler ses élus et de les révoquer s'il le faut, comment ça se passait à l'intérieur du collectif des Gilets jaunes, des collectifs, parce qu'il y a autant de façons de faire suivant les collectifs, mais il y a quand même des points communs, c'est-à-dire le respect de la parole des autres, y compris quand ça part des fois en live, hein,
c'est le problème de la nature humaine, on n'est pas forcément tous faits pour s'entendre à merveille.
Et puis même s'il y a des propos des fois qui sont pas forcément on laisse parler, moi j'ai assisté, hein, bon, à ce genre de débat, et puis surtout il y a une transversalité sur la place des femmes en fait dans les gilets jaunes, qui a été quand même très très importante, j'allais dire presque en avant, pour l'organisation, quoi, de tout. Y compris dans les manifestations, c'était pas forcément des garçons qui étaient devant, mais les femmes étaient très présentes. J'ai des témoignages que j'ai récoltés aussi. Et voilà, donc c'est très riche et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une façon de se réapproprier ce qui s'est passé, de réfléchir bien sûr sur comment ça s'est passé, et puis d'en tirer, si on peut, les leçons, quoi.
Bah, un des enseignements des Gilets jaunes, c'est ça, c'est vouloir se réapproprier en fait l'espace public et puis l'espace politique en disant, ok, très bien, on peut adhérer une certaine mesure au concept et au principe du grand électeur, mais encore faut-il que celui-ci fasse montre d'un minimum d'exemplarité, puis d'être à l'écoute. Et donc il y a une espèce de détachement en fait qui n'est pas nouveau, hein, qui remonte à... Bon, après, ça, on ne sera pas forcément tous d'accord sur jusqu'où on remonterait à ce sujet. Et là, j'en profite. Donc là, tu as développé un peu ce que seront les colloques. Et moi, je voudrais juste aborder rapidement le sujet de la maison d'édition. Donc, parce que c'est un de ses propos, hein, c'est donc de proposer donc une édition de ce qui sera dit et des différents sujets qui ont été traités. Contredis-moi hein, si je dis.
C'est ça. Ouais.
Et donc, par contre, je crois qu'elle a du mal à. Elle va fonctionner comment ? Parce que bon, une édition, ça demande tout de suite des frais qui sont autrement plus importants, enfin, qui sont assez conséquents, hein, ça chiffre vite, littéralement.
Oui. Alors, l'année dernière, là, pour le premier colloque qu'on avait fait, on a fait paraître un livre qui s'appelle Les révoltes populaires en Aquitaine de la fin du Moyen-Âge à nos jours, avec un partenariat qui s'est mis en place avec Espace Max, l'association Pourquoi Pas, les éditions d'Albret surtout, et l'Institut Aquitain d'Histoire Sociale. Et cette année, on a dit, mais on va le faire nous-mêmes. Hein. Bon, et donc, on est en train de monter une maison associative qui, dans un premier temps, va faire ce que tu expliquais, c'est la publication des actes du colloque. Hein. Donc, il y a près de 25 personnes qui vont intervenir. Donc, on reprend ces actes-là parce qu'ils sont importants, hein, comme dit l'autre. C'est les paroles s'envolent et les écrits restent. Et puis, ça sera agrémenté, bien sûr, d'une quinzaine, une vingtaine de témoignages deux gilets jaunes hein, qui ont participé à ce soulèvement, ce qu'on appelle le soulèvement. Et donc ça, on va essayer, on va le faire. Hein. Donc on va monter cette maison d'association, cette maison d'édition associative hein, qui s'appelle Rebellio Édition. On va y arriver. Je ne sais pas encore comment. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à contacter la radio et puis de nous rejoindre.
Pas sûr qu'on ait envie de faire suivre le message, mais ça, on verra.
Voilà, mais donc, on sait qu'on y arrivera. De toute façon, après, on ne va pas monter non plus quelque chose de...
Oui, mais c'est un corps de métier à part, en fait.
C'est un corps de métier à part, mais bon, tout s'apprend. Et c'est parce qu'on fait des erreurs qu'on apprend. Ce n'est pas parce qu'on réussit du premier coup. Donc, on a réussi cette année le pari de vendre tout ce qu'on a produit. On a vendu nos bouquins. En allant sur le terrain, en rencontrant des gens. C'est ce qu'on va faire avec le deuxième livre. C'est-à-dire qu'on va le faire vivre. Les Gilets jaunes, on va les rencontrer, on va aller se déplacer. C'est un vrai bonheur parce que on récolte d'autres témoignages à nouveau. Et puis ça génère d'autres idées de faire peut-être des livres parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas l'occasion, ou c'est trop compliqué pour eux.
Voilà. Le temps, il y a plein de choses qui peuvent faire défaut, en fait.
Jeune homme, moi j'ai beaucoup de temps, donc j'ai pas de problème.
C'est vrai que c'est un des luxes. Hein. Bon, là, je pensais à Stevenson, l'éloge de l'oisiveté, qui est un de mes livres préférés d'ailleurs. Mm-hmm. Je sais que je devrais pas trop parler de moi à titre personnel, parce que c'est quand même une des premières choses qu'on ait retirées. Disons que dans le rapport de force sociétal qui est le nôtre, c'est qu'on nous a retiré le temps du joueur du temps, tout simplement, en fait. Donc, pour le coup, de se retrouver, comme tu disais, être un jeune homme et qui a beaucoup de temps à sa disposition, ça laisse le champ des possibles grand ouvert.
Tout à fait. Et on travaille beaucoup sans travailler, puisqu'on est passionné par ce qu'on fait. Donc, la notion de... Ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce que le travail, en fin de compte ? C'est de la souffrance, mais c'est aussi beaucoup de choses qui t'apportent. Et comme on résume le travail au salaire ou l'argent, c'est là où ça ne va plus, quoi, en fait. Hein. Et, je pense notamment aux infirmières, je pense notamment au personnel médical qui ne travaillent pas que pour l'argent, parce que sinon ils auraient...
Ça fait bien longtemps qu'ils auraient arrêté.
Ouais. Ils auraient arrêté, ils sont passionnés par ce qu'ils font, et on ne parle pas de la même chose quoi, dans les choses. Et nous, on a ce luxe-là, hein, de faire beaucoup de choses et de le faire avec le grand plaisir et puis surtout et ben de se rendre utile, je pense, nous pensons, à ces projets-là, parce que bon, si c'est pas nous qui le faisons, là, je paraphrase et je vais la citer, c'est Delphine, une amie gilet jaune, qui le dit, si c'est pas nous qui écrivons l'histoire des gilets jaunes, il faudra pas se plaindre si d'autres le font à notre place. Hein.
Oui, sans forcément retranscrire de façon ouais. au moins fidèle. Quoi.
Ben voilà, donc c'est aussi ça ce qui nous dynamise, hein, tu vois, dans notre investissement.
Oui, dans la démarche, ouais. Puis, ouais. La démarche et puis l'envie de le faire.
Ouais, ouais.
Voilà. Ben déjà, bon, un merci.
Ouais. En fait, hein, bon, nous qui te remercions.
Bon, là, pour le coup, c'est pas forcément, ça n'engage pas forcément que moi, mais bon, j'imagine que c'est un retour que tu as déjà dans le cas des entretiens ou des témoignages que tu peux avoir, c'est les gens qui, comme on le disait un peu plus tôt, qui n'ont pas eu l'impression d'avoir été écoutés. Donc d'avoir une structure associative, et puis encore une fois, je le répète, quoi, qui met à disposition des énergies, donc des personnes, et qui parlerait des rencontres, des possibilités, des structures, des espaces. Bon, voilà, quoi, déjà, merci pour ça. Et je sais pas, y a-t-il quelque chose, parce que moi j'ai jeté un petit coup d'œil sur l'horloge et on arrive malheureusement un peu au terme de notre émission. Le temps a tendance à parfois à filer à toute vitesse sans qu'on ait la main dessus. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais
Si les gens sont intéressés, ils vont voir le site assopourquoipas.org. Dedans et sur l'édition, la maison d'édition Rebellio réédition, et bien il y a un appel bien sûr à verser son obol. Ça peut être d'acheter de pré-acheter un livre, ça nous aidera déjà pas mal. Et puis, vous verrez les différentes activités, les points de vue qui sont souvent pas engagés parce que ça veut rien dire, mais enfin qui sont ce qu'ils sont en fait. Et on n'est pas forcément être obligé d'être d'accord avec tout ce qu'on dit, mais enfin on essaie d'être sensibilisé à tout ce qui touche à la citoyenneté. En sachant qu'on ne peut pas tout faire. Et bien sûr, il y a des absences, il y a des zones d'oubli, mais c'est comme ça. On avance à l'énergie et il en faut quand même pour maintenir quand même 21 ans de présence et d'activité autour de la culture, de la citoyenneté, de l'éducation populaire.
D'ailleurs, c'est une question, oui, que vous êtes combien dans l'équipe de l'association ?
Très peu. On est une petite dizaine, en fin de compte.
Et puis, après,
puis voilà, donc il y a des gens qui restent un an, deux ans, et puis ils vont faire autre chose. Bien souvent, ils eux-mêmes créent leur propre... Il y a un côté ami bien dans cela, parce que moi, je ne vais pas faire une grande association sans se gérer après... C'est compliqué, hein. J'ai vécu des grosses associations, c'est un métier. Et puis, comme bien que très jeune, j'ai pas envie de gérer.
Disons que ça te laisse plus le temps de faire le reste.
Tu as besoin d'une administration. Donc, dans la base de ces projets-là, et avec les fonds, c'est souvent des appels à projets qui nous permettent d'avancer, donc qui nous motivent. C'est des associations avec d'autres associations. Hein, je pense à mes amis de Compagnie Fabula,
Atelier de théâtre avec
Atelier Théâtre. J'ai oublié de dire aussi que, bon, c'est parce que c'est la concurrence, mais j'anime une émission sur la clé des ondes tous les mardis de 13 à 14 heures sur l'histoire. Ça s'appelle Histoire de voir, histoire au pluriel, parce que justement, l'histoire, c'est avec un grand H, mais les histoires, c'est nous qui les faisons et qui les...
Ouais, c'est quand même la petite histoire qui est la plus intéressante. J'aime pas le dire comme ça, mais bon, au moins pour le coup, ça a le mérite d'être compréhensible. C'est celle-ci qui est le plus captivant.
Donc, tout ça nourrit tout ça qu'on fait. Hein, et on n'a jamais fini. On rencontre toujours des gens extraordinaires et on se nourrit de ces rencontres-là.
Ok, moi je vous souhaite tout le meilleur pour la journée de demain, donc au Musée d'Aquitaine, pour ce soir à l'Utopia. Puis comme on a eu l'occasion de se le dire pendant l'entretien, le studio, maintenant tu connais les lieux et tu connais l'adresse, donc ça sera avec plaisir qu'on te recevra à d'autres occasions pour parler d'autres manifestations. Et je me tourne vers Rossio à la régie, et je vais vous souhaiter donc un grand merci à nouveau, puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse, laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?